Nous voulons nous recueillir dans la prière. Ô notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous voulons célébrer ce matin ta bonté et nous voudrions ensemble écouter ta parole, la laisser pénétrer nos cœurs. Nous savons que c'est une parole vivante, opérante, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Nous savons qu'elle peut atteindre nos consciences et illuminer notre intelligence et remplir nos cœurs pour que, de ce que notre cœur sera rempli pendant ce camp, nos bouches puissent parler et que nous devenions des témoins de ta parole. Des témoins de la personne que nous révèle cette parole, Jésus et Jésus seul. Bénis-nous de ta bénédiction et garde-nous dans ta paix pour la gloire et l'honneur de ton Père qui cherchait des adorateurs qui l'adoraient en esprit et en vérité. Amen. Eh bien, mes amis, vous savez que le thème de ce camp, c'est « Vous serez mes témoins ». Et dans toute cette première partie, avant que nous ayons le culte d'adoration et que nous répondions au désir du cœur du Seigneur et qui a dit « Faites ceci en mémoire de moi », ce que nous faisons jusqu'à ce qu'il vienne, c'est-à-dire dans l'attente de son retour, eh bien, nous allons tout d'abord reprendre ce que nous avons dit hier soir. Vous vous souvenez de cette lecture du chapitre premier du livre des Actes. Et ce matin, plus particulièrement, nous poursuivrons avec le chapitre deuxième qui nous rappelle le grand événement de la Pentecôte. Et je dirais simplement ceci, comment nous avons divisé pour cette semaine le livre des Actes. Il y a, comme vous le savez, dans le livre des Actes, 28 chapitres et combien de versets? 1006 versets. Alors, dans notre première semaine, nous allons survoler les 14 premiers chapitres, ce qui fait 519 versets. Et dans la deuxième semaine, alors, nous aurons à parcourir les 14 derniers chapitres, ce qui fera 487 versets. Alors, hier soir déjà, pour que nous puissions tout couvrir, après l'ouverture, nous avons vu le premier chapitre du livre des Actes. Et je veux croire que vous avez pu vous endormir en pensant à ce que nous avions lu. Je rappelle que ce livre des Actes a été écrit à un homme, nous avons lu cela, qui s'appelle Théophile. Est-ce qu'il y a des enfants qui aimeraient s'appeler Théophile? Mais je crois que dans un sens, vous vous appelez tous Théophile. Parce que cela veut dire aimé de Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Théophile, Dieu, et puis fil, il y a aimé. Dieu vous aime. Dieu a de l'affection pour vous. Vous êtes des aimés de Dieu. Eh bien, ce livre des Actes, il est écrit à un certain Théophile. Alors, à la place de Théophile, moi, je mets mon nom. Il a été écrit, ce livre des Actes, pour Gaston. Il a été écrit pour, vous avez tous vos noms, moi je ne les connais pas encore tous, mais il y en a un qui vous connaît par vos noms, c'est qui? C'est Jésus, oui, Jésus vous connaît par vos noms, et il vous aime. Alors, ce Théophile, on le sait par d'autres versets sur lesquels je ne peux pas revenir, dans l'évangile de Luc, il est appelé excellent. Et un homme qu'on appelle excellent, c'était ou un gouverneur, enfin c'était un noble, c'était un homme qui avait une belle situation dans le monde. Très excellent Festus, très excellent Félix, ce excellent, oui, c'est toujours un mot qu'on mettait devant le nom d'un homme important. Mais cet homme riche, cet homme excellent, il avait donné son cœur à qui ? À Jésus. Mais comme autrefois il était païen, il y a eu quelqu'un qui a voulu lui raconter la plus merveilleuse histoire du monde. C'est laquelle ? La plus belle histoire du monde, c'est l'histoire de Jésus. Et alors, c'est cela que nous lisons dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc est le premier livre qui a été écrit pour raconter à ce Théophile cette histoire merveilleuse du Seigneur Jésus dont je vous ai rappelé quelques points hier soir. De sorte que quand on lit le livre des Actes, il faudrait lire avant le livre de Luc. Le livre des Actes, c'est la suite de l'évangile de Luc, qui est le troisième évangile. Au sujet de Luc, c'est quelque chose que je voudrais dire tout de suite pour que nous comprenions bien. Luc, nous n'avons pas son nom dans le livre des Actes. C'est lui qui l'a écrit. Hein. Mais il n'a jamais parlé de lui. Sauf une fois en disant « nous ». Quand il est devenu le compagnon de l'apôtre Paul, nous voyons au chapitre 16, c'est la première fois qu'il dit « nous ». Donc, Luc était bien un compagnon de l'apôtre Paul. Et dans d'autres épîtres de l'apôtre Paul, c'est Paul qui parle de Luc. Et il dit que ce Luc, c'est un frère bien-aimé, c'est un homme qui a écrit sur l'évangile de Jésus-Christ. Et il était connu de tous parce qu'il avait écrit ce merveilleux évangile de Jésus-Christ. Nous avons cela au chapitre 7 de la deuxième épître aux Corinthiens. Et tout le monde avait confiance en lui. Ce n'était pas le premier venu, c'était un médecin que Paul appelle le médecin bien-aimé et qui est resté avec l'apôtre Paul jusqu'à la fin de sa vie. Nous aurons l'occasion de revenir sur tout cela. Mais voilà l'auteur de ce livre des Actes, c'est celui qui a écrit l'Évangile et qui maintenant écrit son deuxième livre à ce Théophile qui a déjà été instruit pour apprendre à connaître mieux le Seigneur Jésus auquel il avait donné son cœur. Et le nom que ce Luc Paul porte, eh bien, il veut dire lumineux. C'est un nom lumineux. Luc. Que le Seigneur fasse de tous les Lucs qui sont au camp des hommes lumineux. Et vous savez qu'on peut être lumineux et rester modeste. Luc était modeste puisqu'il ne parlait jamais de lui-même. Il n'a jamais parlé de lui-même et il était en relation avec l'apôtre Paul, comme nous aurons l'occasion de le voir. Et alors, dès le premier chapitre que nous vous avons lu hier soir, Théophile, maintenant vous savez qui c'est, j'ai parlé dans mon premier livre. Ce premier livre, c'est quoi ? L'évangile de Luc. De tout ce que Jésus a commencé à faire. Et vous avez bien compris, on parle d'abord de ce que Jésus a fait, puis ensuite qu'il a enseigné. Mais Jésus n'est pas un théoricien, Jésus ne vous dit pas ce que vous devez faire, il fait d'abord les choses, pour que vous puissiez voir comment lui les fait. Et c'est ce que nous avons vu dans le temps précédent, hein, l'année passée. Tout apprendre de Jésus, parce que lui, c'était quelqu'un qui faisait les choses. Puis après, quand il les avait faites, il enseignait pour qu'on fasse comme lui avait fait. Et cela jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier soir de sa vie terrestre. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Il a été sur la terre, Jésus. Mais maintenant, il a été enlevé au ciel. Et avant de partir au ciel, il a voulu donner des ordres qu'on a vus à ses apôtres. Et nous allons apprendre à connaître ses apôtres. Combien est-ce qu'il y en avait d'apôtres? Il y en avait 12, oui. Et puis, est-ce qu'ils ont tous été fidèles? Bien oui, ils disaient tous oui, eux aussi. Hein. Ils disaient tous qu'ils étaient fidèles. Puis pourtant, il y en a un qui allait le trahir. C'est ce que nous avons vu, dans ce que nous allons voir dans ce chapitre. Mais Jésus, ressuscité, verset 3, après qu'il eut souffert, qu'est-ce qu'il a souffert, Jésus? Il a souffert quoi? Il y avait une petite fille à Ol qui a demandé une fois, j'étais là-bas, on a demandé, quel cantique voulez-vous qu'on chante? Elle avait 2 ans, elle était sur le cœur de son papa, puis elle a dit, Golgotha. Ça m'a frappé, une petite fille. Golgotha. Elle voulait qu'on chante Golgotha. C'est là qu'il a souffert. C'est là qu'il a été crucifié. Eh bien, il n'est pas resté sur la croix. On l'a enseveli, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est maintenant ressuscité. Il a repris vie. Il est vivant. Et puis, pour en donner les preuves, il est resté 40 jours. Vous avez vu? 40 jours avec ses disciples, où il leur apparaissait, où il leur donnait la preuve qu'il n'était pas un esprit, qu'il était vraiment dans un corps. Il a pu manger, il a pu boire avec ses disciples. 40 jours, pendant 40 jours. Et ça vous fait penser à quel autre 40 jours? Au désert, au début de son ministère, quand il avait 30 ans, il a commencé par 40 jours de jeûne, et puis au bout des 40 jours où il était entouré d'animaux sauvages, il a eu faim, et le diable a essayé de venir lui dire, ne fais pas ce que ton père voudrait, suis-moi, tu n'auras pas à souffrir, tu n'iras pas sur la croix. Et si Jésus avait écouté Satan, eh bien nous serions tous perdus, et nous irions tous en enfer. Et il n'a pas écouté Satan, il a dit, je veux faire la volonté de mon Père, et il est allé jusqu'à la croix, parce qu'il nous voulait dans son royaume. Alors, ressuscité, après avoir souffert la croix, il est dit qu'il se trouvait avec ses disciples, et il leur a demandé, et ils ont obéi, et vous savez, quand on obéit, on est toujours béni. Il leur a dit, vous n'allez pas, parce que moi je monte vers mon Père, vous n'allez pas quitter Jérusalem, vous allez rester à Jérusalem. Et dans peu de jours, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit que le Père vous a promis s'accomplira. Quand Dieu fait une promesse, vous pouvez être sûr qu'il l'accomplit. Nous, on est impatients. On dit, mais quand est-ce qu'il va accomplir sa promesse? Vos parents, quand ils font une promesse, ils ne vous donnent pas peut-être la chose tout de suite. Mais s'ils vous ont dit qu'ils allaient vous la donner, vous pouvez être sûr qu'ils accompliront votre promesse. Mais ils ne peuvent pas l'accomplir avant que le temps soit venu. Alors, ils vous apprennent ainsi la patience. Alors, Jésus leur a dit, dans peu de jours, vous allez recevoir une puissance. Mais pour cela, il faut que vous restiez dans la ville où j'ai été crucifié. Vous allez rester à Jérusalem et vous allez recevoir la promesse du Père. La promesse du Père, c'était que le Saint-Esprit leur serait donné et que si Jésus n'était plus avec eux, par le Saint-Esprit, où se trouverait-il Jésus? En eux. Et c'est cela qui allait changer leur vie. Pas un Jésus à côté d'eux qui leur enseigne, mais un Jésus qui vient habiter en eux, qui regarde par leurs yeux, qui écoute par leurs oreilles, qui parle par leur langue, qui aime par leur cœur, qui sert par leurs mains et qui se déplace par leurs pieds. Voilà ce qui allait se passer. Alors il fallait qu'ils restent tous à Jérusalem. Alors les apôtres, quand ils ont entendu tout cela de Jésus, ils avaient des questions à lui poser. Et puis ils lui ont demandé, mais est-ce que c'est bientôt que tu vas établir ton royaume? Ils avaient des idées toutes fausses. Ils pensaient que Jésus n'était venu que pour un peuple, que pour les Juifs. Est-ce qu'il est venu seulement pour les Juifs? Non. Il était venu pour le monde entier. Il était venu pour les païens. Alors il dit, non, le royaume établi pour Israël, c'est mon Père qui sait quand cela se fera. Vous n'avez pas à vous occuper de l'heure, du jour, de l'établissement du royaume. Mais ce que vous devez être, c'est témoin que je suis vraiment vivant. Moi, je serai dans le ciel, vous me verrez monter au ciel, et vous direz à tous où je suis. Et puis, si vous restez à Jérusalem, eh bien, le Saint-Esprit viendra, et je serai dans vos cœurs. J'habiterai dans vos cœurs. Alors, ils verront que je suis dans vos cœurs. Ils verront par vos vies que je suis vraiment vivant. C'est ça que nous avons dans le premier chapitre. Et pendant qu'il leur disait ces choses, qu'ils seraient ses témoins, non pas seulement à Jérusalem, mais ensuite qu'ils pourraient aller par toute la terre, eh bien, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a vu? Jésus qui montait. Pas avec une fusée, comme ça. Il montait. Toujours plus haut. Alors les disciples, ils étaient à zoup, ils regardaient Jésus, qui s'en allait où? Au ciel, vers son Père, qui traversait tout cela. Il n'a pas flotté dans l'air comme les astronautes, ils n'arrivent pas à aller plus loin. Ils flottent à un moment donné. Et puis, ils disent que là, ils n'ont pas vu Dieu. Mais c'est pas là qu'il est. Il est dans les cieux des cieux. Un chemin que les astronautes n'ont pas encore pu prendre. Parce qu'il faut un appareil spécial pour aller là-haut. Il faut des corps nouveaux. Des corps changés. Des corps vraiment transformés. Semblables au Seigneur. Et alors c'est avec ces corps nouveaux qu'on peut aller à travers le chemin du Père. Pour arriver vers la maison du Père que personne n'a vu sinon le Seigneur. Qui est allé nous préparer une place. Là-haut, il y a votre maison. Là-haut, il y a votre place si vous avez donné votre cœur au Seigneur Jésus. Et on ne regrette jamais d'avoir donné son cœur à Jésus quand on était enfant. Parce que comme ça, on ne perd pas de belles années. Et vous êtes jeunes, vous êtes comme les belles fleurs des champs. Eh bien, le Seigneur a droit à ces belles fleurs, à vos jeunes vies, et non seulement au reste de nos vies misérables, quand on a les cheveux tout blancs comme moi, et qu'on est vieux, et qu'on va avec une canne. Oh, il nous prend quand même aussi. Mais alors on regrette, on dit, oh, toute ma vie, j'ai donné toute ma vie à Satan, puis maintenant je voudrais aller au ciel. Alors je lui demande pardon au dernier moment. Non, il voudrait que vous lui ayez donné votre cœur, pour qu'il ait toutes vos forces, qu'il ait toute votre jeunesse. Il est digne de cela, lui qui vous a tellement aimé. Et alors, quand ils ont vu Jésus qui s'en allait, ils restaient comme ça là. Qu'est-ce qu'il leur avait dit Jésus? Qu'ils devaient aller à Jérusalem, retourner dans la ville. Mais eux, ils voulaient rester là, regarder les nuages, mais tout d'un coup, les nuages ont caché. Et à ce moment-là, il y a deux hommes vêtus de blanc, qu'on a lu hier soir, qui sont arrivés, puis ils leur ont dit, pourquoi restez-vous avec vos regards vers le ciel? C'est pas ça que Jésus vous a dit. Il vous a dit de rester à Jérusalem. Ne soyez pas des contemplatifs qui disent, ben voilà, on va regarder toujours le ciel pour voir s'il va encore s'ouvrir, puis redescendre maintenant. Il reviendra, mais ce n'est pas à vous de connaître le jour de sa venue. Ce qu'il vous a demandé, c'est de lui obéir et d'être ses témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Galilée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ils ont obéi. Ces deux hommes sont venus dire, il reviendra. Et nous sommes sûrs que le Seigneur reviendra de la même manière. Mais avant, alors ça c'est un secret, avant qu'il revienne, il va soudainement venir sur le nuée du ciel, mais le monde ne le verra pas, puis il va prendre tous ceux qu'il aime, tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui lui auront donné leur cœur, les autres resteront sur la terre. Mais tout d'un coup, tous ces gens qui aiment le Seigneur seront loin, et quand il reviendra sur les nuées, nous serons avec lui. Le monde entier nous verra redescendre avec lui. C'est pas nous qui irons vers lui, il nous aura d'abord pris avec lui pour revenir avec nous. Nous reviendrons avec lui, ayant des corps semblables à son corps à lui. C'est quelque chose de merveilleux. Eh bien, c'est cela que les disciples ont cru. Alors, verset 12, nous l'avons lu, ils sont retournés à Jérusalem de la montagne des Oliviers, où Jésus était monté au ciel, et quand ils furent arrivés dans la chambre haute, c'était une salle empruntée dans une famille, eh bien, ils se sont tous rendus là. Il y avait le nom des apôtres, puis il y avait aussi Marie, la mère de notre Seigneur, et les frères de Jésus, qui avaient été très méchants avec lui, qui ne voulaient pas croire en lui, et qui pourtant s'étaient convertis. Vous voyez, qu'il nous faut croire, même vous avez des parents, des familles, dans des familles, des gens qui ne sont pas encore convertis, le Seigneur peut les sauver. Alors que vous soyez de ceux qui croient, que même des gens qui sont opposés à Jésus, Jésus peut changer leur cœur. Les frères de Jésus étaient là aussi. Et alors là, tout d'un coup, notre Pierre, l'apôtre Pierre, s'est levé au milieu d'eux. Parce qu'il a pensé, avant on était 12 apôtres, 12 témoins, puis maintenant combien est-ce qu'on est? Vous savez l'arithmétique? Il y en a un qui a trahi, alors on est combien? Au lieu de 12, il n'y en a plus que 11. Alors Pierre est tout d'un coup inspiré, parce que Jésus, avant de partir, il leur avait ouvert les Écritures. C'est Luc qui dit cela dans son dernier chapitre. Parce qu'avant, il ne comprenait rien aux Écritures. Il lisait la Bible, la B-I-B-L-E. Oui, il la lisait, la B-I-B-L-E. Mais il ne comprenait pas. Alors, il ne faut pas seulement chanter la B-I-B-L-E, hein, mais il faut la lire, puis il faut la comprendre. Eh bien, le Seigneur avait déjà soufflé son esprit sur les apôtres, et tout à coup, Pierre a eu une révélation que, par la Bible, il pouvait savoir ce qu'il devait faire. C'est en lisant la Bible que vous saurez ce que vous devez faire. C'est la Bible qui dit, « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. » C'est le premier commandement avec promesse. Alors, mes bien-aimés, puisqu'on est tous des théophiles, hein, eh bien, nous allons écouter cela. Pierre a compris, en lisant les psaumes, et il nous cite 3 psaumes, que Judas devait être remplacé, ce Judas qui avait trahi Jésus. Il voulait gagner de l'argent. Est-ce qu'il y en a qui aiment gagner de l'argent ici? Judas, il a voulu gagner vite de l'argent. Puis il s'est dit, si j'allais dire aux ennemis de Jésus où il se cache le soir, où il passe la nuit, les gendarmes pourraient venir et l'arrêter. Et alors, c'est une mauvaise pensée. Qu'est-ce qui avait mis cette pensée dans son cœur contre Jésus? Qui c'est qui était l'ennemi de Jésus? Le grand ennemi de Jésus. L'ennemi des enfants. Qui c'est? C'est Satan. C'est Satan. Alors il avait mis dans le cœur de Judas, tu peux faire de l'argent avec Jésus. Jésus se débrouille toujours. Jésus s'est toujours délivré. S'il te donne de l'argent, 30 pièces d'argent, toi tu pourras t'acheter un champ. Il avait un oui d'un champ. Et puis il s'est dit, Jésus, il va quand même se délivrer, c'est pas possible qu'il meure, parce que lui il croyait quand même qu'il était le Messie. On peut croire cela. Mais il s'est dit, Jésus, il va se délivrer. Mais moi je fais de l'argent en même temps. Et il a joué avec Jésus. On ne joue pas avec Jésus. Hein. Il faut être sérieux quand on lui donne son cœur. Et Judas, quand il a vu que Jésus était pris, qu'il était arrêté, et qu'il ne se délivrait pas, et qu'on allait le crucifier, il a eu du remords. Et il est parti vers ceux qui avaient donné les 30 pièces d'argent, il avait son sac d'argent, il a pris son sac, puis il l'a jeté dans le temple, et puis il a dit, c'est l'argent maudit, j'ai péché. Les autres ont dit, ça c'est ton affaire, nous ça ne nous regarde pas. Et ils ont laissé cet argent-là. Mais après, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent? Alors, tandis que Judas est allé voir son champ, qu'il n'avait pas encore acheté, Il a pris une corde et puis, désespéré, il est allé chez celui qui l'avait inspiré, qui s'appelle Satan. Il s'est pendu. Et puis la corde, elle a cassé. Et puis, il s'est crevé en tombant. Je ne sais pas s'il y avait une pierre pointue. Il est tombé sur son ventre. Et puis, la pierre, elle a ouvert son ventre et toutes ses entrailles. Vous savez ce que c'est, les entrailles? Tous les boyaux qu'on a là-dedans, hein, sont répandus sur la terre. C'était quelque chose d'affreux. Et puis, il y avait du sang partout. Alors, quand les sacrificateurs ont vu ça, ils ont dit, on va acheter, nous, ce chant. C'est le chant du sang. Et on l'a appelé Aseldama, qui veut dire en hébreu, le chant du sang. Et c'est ainsi que s'accorde quand même l'évangile de Luc, où il est parlé que c'est comme si c'était Judas qui avait acheté le champ, mais c'est avec l'argent qu'on avait donné à Judas qu'on a acheté le champ. C'est ce que Pierre nous raconte dans ce chapitre que nous avons lu hier soir, hein, et que vous pouvez méditer et voir comment l'apôtre Pierre a compris par les Écritures ce que Judas avait fait, que c'était déjà annoncé que celui qui était le guide de ceux qui ont pris Jésus mourrait. Alors, l'apôtre Pierre, toujours inspiré, dit « Il faut que parmi ceux qui nous ont accompagnés depuis le baptême de Jean, pour être témoin de Jésus, il fallait avoir vu Jésus depuis le moment où il avait commencé son ministère, c'était dans le Jourdain, au baptême de Jean, jusqu'à son élévation dans le ciel. Alors, ils ont regardé combien il y en avait. Il y en a eu deux. Deux hommes qui remplissaient ces conditions, hein, qui pouvaient être témoins. Un, et leurs noms nous sont donnés, un s'appelait Barsabas et l'autre Matthias. Mais comme ils avaient peur de se tromper et qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux, ils ont fait une prière. Et puis ils ont employé les moyens que les Juifs employaient pour une décision. On priait et puis on tirait au sort. Vous savez ce que c'est que le sort, hein? On tirait au sort pour savoir lequel des deux avait été choisi. Mais ils ont prié. Je ne vous dis pas que maintenant vous devez faire cela pour connaître la volonté de Dieu. Ne tirez pas au sort. Le Saint-Esprit est un meilleur guide encore que le sort. Mais le sort, c'était le moyen qui était donné avant le Saint-Esprit. Comme il est dit dans les Proverbes, on jette le sort dans le pan de la robe, mais la décision vient de l'Éternel. Alors on a jeté le sort, et puis la décision a été donnée que c'était Matthias qui serait nommé pour être associé aux apôtres avec les douze. Alors, voilà, j'ai essayé de vous donner un petit résumé de ce qu'on a lu hier soir. Maintenant, on va chanter un cantique, et puis, pour interrompre, vous allez vous lever pour chanter, et puis je ferai la lecture du chapitre 2, rapidement aussi, mais je voudrais quand même que vous ayez cette base, parce que c'est dans le livre des Actes que nous avons trouvé notre thème. Vous serez mes témoins. Qu'est-ce qu'un cantique?
Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner à tout un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, reviens à toi. C'est que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. C'est que je suis, prends-moi.
Pour le ciel, je suis en route, hein. Tandis que de Judas, il est dit qu'il s'en est allé dans son lieu. Judas a abandonné son ministère pour aller dans son lieu. Et son lieu, c'est où? C'est l'enfer. Eh bien, j'espère qu'il n'y en a pas un parmi vous qui abandonne le Seigneur pour s'en aller finalement dans ce lieu de tourment éternelle où l'on est loin de Dieu. Et vous savez, ça va vite une fois qu'on est mort, c'est fini, on ne peut pas changer. C'est pendant notre vie qu'il faut donner notre cœur au Seigneur Jésus. Alors, maintenant que les apôtres avaient fait ce qu'ils devaient faire, voilà que Jésus avait dit qu'il fallait attendre à Jérusalem peu de jours. Combien s'ils ont attendu de jours? 10 jours. 10 jours après que Jésus est monté au ciel, eh bien, s'est accomplie la promesse. Mais il avait fallu attendre 10 jours, et ils ont attendu 10 jours. Alors nous lisons maintenant le chapitre 2. Hein. Le jour de la Pentecôte. Dieu connaît le jour. Il y a un jour qui est le jour où il répond. Mais nous ne devons pas essayer de devancer le jour. Il faut attendre le jour. Le jour viendra. Il nous apprend la patience. Mais le Seigneur connaît le jour. Le jour, le mois, l'année, tout est fixé par Dieu. Alors à nous de ne pas devancer le jour parce que c'est une catastrophe quand nous voulons aller trop vite. Laissons le Seigneur intervenir. Le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, ça veut dire 50e jour. 50e. C'était 50 jours après quelle autre fête? La fête de la Pâque. Et voyez-vous, la fête de la Pâque, on l'avait célébrée la première fois en Égypte, la nuit de la délivrance, la nuit où les Israélites allaient passer à travers la mer Rouge pour être délivrés du pays d'Égypte. Et qu'est-ce qu'ils avaient mangé comme dernier repas? Un agneau. Un agneau qui préfigurait l'agneau de Dieu, car Jésus a été le vrai agneau. Jésus a été pour nous la vraie Pâque. Les Israélites avaient égorgé un agneau, ils avaient mis le sang sur les linteaux, les poteaux de la porte, et ceux qui étaient à l'intérieur étaient gardés, préservés par le sang. Les enfants et qui avaient un papa croyant et qui avaient obéi et qui avaient mis le sang, ils étaient tranquilles, tandis que partout ailleurs, tous les aînés, l'enfant aîné, mourait, était frappé de mort. Alors ça, c'était la Pâque. Et 50 jours après la Pâque, qu'ils avaient célébrée en Égypte, ils se trouvaient au pied du Sinaï, et la Pentecôte, chez les Juifs, c'était le souvenir de Moïse qui avait donné la loi au peuple d'Israël et qui avait été délivré d'Égypte. Alors on célébrait chez les Juifs la Pentecôte, c'est-à-dire le don de la loi en Israël. Alors les apôtres, eux, ils avaient entendu Jésus leur dire « Restez à Jérusalem ». Alors ils étaient là, tous ensemble dans un même lieu. Avant, ils se disputaient toujours. Maintenant, ils pouvaient être ensemble. Bien, j'espère qu'on sera toujours bien ensemble dans ce camp. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit. Pour qu'on entende un bruit qui vient du ciel, est-ce qu'on entend un bruit qui vient du ciel quand on fait beaucoup de bruit sur la terre? Non, on n'entend rien. Et vous savez, il y a tellement de bruit sur la terre aujourd'hui, il y a tellement de bruit même dans les églises, on fait beaucoup de bruit, hein, même avec toute espèce d'instruments de musique. Moi, j'ai rien contre les instruments de musique, mais attention, hein, il y a tellement de bruit aujourd'hui qu'on ne peut plus entendre le bruit qui vient du ciel. Et le Seigneur n'aime pas le bruit. Alors, ils étaient là, et ce qu'ils ont entendu, parce que pour être les témoins, il faut avoir entendu. Et puis, il faut avoir vu. Eh bien, ils allaient devenir enfin des témoins. Et ils étaient là. Et vous savez, ce n'était pas une réunion de prière qu'ils avaient. Pourquoi est-ce que je dis ça? Comment est-ce que je peux dire que ce n'était pas là, ce jour-là, ce matin-là, une réunion de prière, d'abord? Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Or, les Juifs ne priaient jamais assis. Ils priaient debout. Vous pouvez encore aller voir ça à Jérusalem. Les Juifs prient debout. Mais vous voyez que le Seigneur n'a pas besoin qu'on prie, qu'on fasse le tour du monde avec nos prières, des longues prières qui n'en finissent pas. Hein, et puis les gens n'écoutent plus. Non, ils étaient dans le silence. ils étaient assis. Bien sûr qu'ils étaient en prière, dans un esprit de prière, mais ils n'étaient pas en train de faire entendre leur prière aux autres, ce qui tue nos réunions de prière, parce qu'on fait des trop longues prières, hein. Et puis alors les gens ne viennent plus à nos réunions de prière. Qui ne comprennent pas, ou bien on parle dans sa barbe, même si on n'a pas de barbe. Alors on ne comprend pas, on ne peut pas dire Amen. Il faut comprendre pour pouvoir dire Amen. Alors, ils étaient là, assis. Moi j'aime beaucoup aussi l'histoire d'Abraham, le père Abraham dont vous avez chanté quelque chose. Lui, il a été visité par Dieu quand il faisait quoi? La sieste, oui, il faisait la sieste. Chapitre 18 de la Genèse. Il faisait chaud vers midi, puis il se reposait, il faisait la sieste. Et c'est pendant qu'il faisait la sieste que le Seigneur est arrivé. C'est merveilleux. Il en donne autant à tes bien-aimés dans leur sommeil. C'est merveilleux, notre Seigneur, comme il est. Et bien voilà, ils étaient dans... Mais alors, ils étaient tranquilles, ils étaient assis, ils attendaient. Puis tout à coup, qu'est-ce qu'ils ont vu? Des langues, semblables à des langues de feu. Vous rendez-vous compte? Un feu céleste qui descendait. Et ce n'était pas la foudre, parce que si ça avait été la foudre, qu'est-ce que ça aurait fait? Elles auraient été tuées. Non, elles sont descendues, ces langues de feu. Elles se sont posées sur quelques-uns, sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ce que Jésus leur avait dit, que le Père accomplirait sa promesse. La promesse du Père, c'était de leur envoyer le Saint-Esprit. Eh bien, c'était arrivé. Le jour de la Pentecôte, c'était le moment, et cela est arrivé. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur était venu maintenant habiter dans leur cœur. Puis alors, c'était tellement bouillant dans leur cœur qu'ils se sont mis à parler dans d'autres langues. Des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Parce qu'il y avait à Jérusalem, ce jour-là, des gens de tous les peuples, de toutes les nations. Il y avait des grandes conférences, des grandes conventions, si vous voulez, comme on dit aujourd'hui. Et alors, tout ce monde qui parlait toute espèce de langue était là. Et le Saint-Esprit a donné à ses disciples la capacité de pouvoir témoigner. Parce que pour être un témoin, il ne faut pas seulement avoir vu et avoir entendu, il faut avoir la force, il faut avoir la puissance de pouvoir dire ce qu'on a vu et entendu. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui ne témoignent pas? Ils ont vu, ils ont entendu, mais n'osent pas. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas la force. Ils ont vu, ils ont entendu, mais ils ont peur. Eh bien, quand le Saint-Esprit nous remplit, il nous donne cette force, sans que ce soit un effort de notre chair pour parler, mais c'est le Saint-Esprit qui met les paroles sur dans notre cœur, qui les fait monter sur nos lèvres et qui les distribue. Le Saint-Esprit, elle leur a donné la capacité de parler. Mais qu'est-ce qu'il disait? Des jokes? Est-ce que le Saint-Esprit nous fait dire des jokes? Non, elle est d'accord. La vérité sort de la bouche des enfants. Alors, faisons attention à tout ce que nous disons. Hein. Alors, ils ont tous été capables de parler. Au bruit de cela, verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. On n'a pas eu besoin de faire toute une propagande comme on fait aujourd'hui. Quand on veut faire une réunion d'évangélisation, il faut rameuter tout un monde, il faut faire de la réclame, des spots à la télévision. Mais quand il s'est passé cela à Jérusalem, eh bien, il n'y a pas eu besoin de faire de la réclame. C'était un fait, c'était quelque chose, un événement qui était arrivé. Et qui a été connu de tous, les gens se sont rassemblés, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue, et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Puis à tous les noms, il y avait des Parthes, des Mèdes, des Élamites, toutes les nationalités possibles, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Les prosélytes, c'étaient ceux qui, parmi les païens, s'étaient convertis au judaïsme. Crétois, arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues? De quoi est-ce qu'ils parlaient? Des merveilles de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Ils parlaient des merveilles de Dieu. Le Seigneur merveilleux était dans leur cœur et ils pouvaient parler des merveilles de Dieu. Et les gens étaient saisis. Mais alors il y a toujours d'autres qui sont durs. Ils se moquaient. Puis de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont pris? Des caisses de bière. La Molson, la Labatt, je ne sais pas quoi encore, moi je ne connais pas beaucoup là-dedans. Bien non, mais ils disaient qu'ils sont pleins de vin doux. C'est un peu, c'était la bière de ce temps-là. Ils sont pleins de vin doux. Ils pensaient qu'ils étaient ivres, alors ils ne savaient plus ce qu'ils disaient. Alors l'apôtre Pierre, de nouveau, s'est levé. Quand il a vu qu'il y en avait qui se moquaient, et qui disait, ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre, verset 14, se présentant avec les 11, donc ils sont maintenant combien? Avec Pierre, ils sont de nouveau 12, il éleva la voix et il leur parla en ces termes. Ce Pierre qui avait eu honte de la servante qui avait dit, mais tu es aussi de ces gens-là, toi. Puis il avait dit, non, je ne connais pas cet homme. Il avait dit ça de Jésus. Bien voilà un Pierre qui est tout à fait transformé. C'est un autre Pierre, c'est un Pierre nouveau. Et il ose se lever. Puis il dit, homme juif, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure. Qu'est-ce que c'est la troisième heure? En Israël, dans ces pays-là, de ce temps-là, la troisième heure, c'était 9 heures du matin. La première heure, là-bas, c'est 6 heures. La neuvième heure, c'est 9 heures. La sixième heure, c'est midi. La septième heure, c'est 1 heure. Il est parlé de tout cela dans l'Écriture. Et puis, la neuvième heure, l'heure de la prière, c'était 3 heures de l'après-midi. La dixième heure, c'était 4 heures de l'après-midi. Et la onzième heure, c'était 5 heures de l'après-midi, et la douzième heure, c'était 6 heures du soir. C'est comme ça qu'on comptait les heures de ce temps-là. Alors, vous pouvez toujours savoir à quoi correspondent les heures dans l'Écriture. C'est à la sixième heure que Jésus parlait à la femme samaritaine. C'était quelle heure alors? Midi. C'est à la sixième heure que Paul est tombé de son cheval quand il allait sur le chemin de Damas. C'était quelle heure? Midi. Il y a des conversions qui peuvent avoir lieu à midi. Il y a des entretiens qui peuvent avoir lieu à midi avec le Seigneur. Puis il y en a aussi la nuit. Alors, on continue pour bien comprendre cela. Ce n'est que la neuvième heure du jour. Donc, ils ne sont pas ivres. On ne boit pas tôt. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et le prophète Joël, c'est un des petits prophètes que vous trouvez dans l'Ancien Testament. Homme juif, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire, parleront de la part de Dieu. Prophétiser, c'est pas dire l'avenir, c'est être dans le contact avec Dieu et laisser l'Esprit de Dieu nous transmettre un message qui vient du sanctuaire. C'est ça, la prophétie. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et une vraie prophétie, elle apporte toujours une édification, c'est-à-dire elle nous bâtit, elle apporte toujours une exhortation, elle nous stimule, et puis elle apporte toujours une consolation, parce que nous avons bien des épreuves, et alors c'est comme ça qu'on sait si c'est une prophétie, si c'est une parole qui vient de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Vous voyez que Dieu aime les enfants et aussi les vieillards. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand et glorieux jour. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pas eu au moment de la Pentecôte le soleil et la lune changés en sang. C'est un accomplissement partiel de cette prophétie. Mais plus tard, quand le Seigneur reviendra, juste avant qu'il revienne, il y aura tous ces signes visibles. Et alors la prophétie de Joël sera pleinement accomplie. Et il continue. En Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, ça c'est la merveilleuse histoire. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies, c'était les Romains. Dieu l'a ressuscité et l'a délivré des liens de la mort, donc il n'est plus au sépulcre, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Puis, Pierre, toujours inspiré, comprenant les psaumes, dit ceci. « Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » C'était ce merveilleux psaume. « Homme frère, continue Pierre, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, lui, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait point la corruption. Car ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Voilà. Hein. Voilà leur témoignage. Il peut dire Jésus qui a été ressuscité, nous pouvons vous dire que c'est vrai. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu, sorti du tombeau, élevé par la droite de Dieu. On l'a vu monter au ciel. On peut vous dire où il est allé au tombeau. Il est vide. Mais le Seigneur est au ciel, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait promis et il l'a répandu sur vous, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quand on met les pieds sur un marchepied, hein, qu'est-ce qu'on fait? Si on mettait quelqu'un comme marchepied, qu'est-ce qu'on lui ferait? On les graverait, hein? On les graverait. En Égypte, vous voyez toujours ce symbole où on voit le roi qui marche sur ses ennemis. Il fait de ses ennemis son marchepied. On écrase. Eh bien, un jour, le Seigneur mettra ses ennemis comme marchepied. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Que tout le camp Mahanaïm sache aujourd'hui, au début de ce camp, avec certitude que Jésus est ressuscité, on sait où il est. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà la prédication de Pierre, sa première grande prédication après le message qu'il avait donné dans la chambre haute au sujet de Judas. Mais sa prédication aux foules juives. Alors après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont été touchés de penser que Jésus, on l'avait crucifié. Et ils dirent à Pierre et à ceux qui étaient avec lui, les apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » C'est eux qui demandent « que ferons-nous ? » Ce n'est pas le prédicateur qui dit ce qu'ils doivent faire d'abord. C'est eux qui sont touchés et qui, ayant entendu l'appel qui se trouve dans la prédication, demandent maintenant qu'est-ce qu'il nous faut faire. Et Pierre leur dit, repentez-vous. Voilà les conditions du salut. Se repentir, c'est reconnaître qu'on a fait le mal. C'est reconnaître qu'on est pécheur. C'est confesser notre faute et l'abandonner. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Condition, croire au Seigneur Jésus et l'accepter comme sauveur. Car la promesse est pour vous, et je suis heureux qu'il y ait des enfants ici, et pour vos enfants, chers parents, croyez-le, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Et par plusieurs hautes paroles, il les exhortait et les conjurait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ combien ? 3 000. Hein? Jésus avait dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Je n'ai fait. Hein? Eh bien, les disciples ont vérifié cela. Ils persévéraient. Alors maintenant, nous voyons un tableau de la première église. Il y a les 4 persévérances. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres enseignaient ce qu'ils avaient entendu de Jésus. Dans la communion fraternelle, on s'aimait les uns les autres, on aimait se retrouver. Dans la fraction du pain, c'est ce que nous allons faire, et dans les prières. Alors là, il y a des prières. Eh bien, tout cela introduit notre culte. Et la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les mains des apôtres. Quand on lui a livré nos mains, le Seigneur peut faire avec nos mains qui si souvent font du mal et pêchent, il peut en faire des instruments pour sa gloire. Et si nos mains étaient davantage livrées au Seigneur, on verrait d'autres choses que ce que l'on voit aujourd'hui. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils les partageaient, le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Il n'y avait pas besoin de syndicat, parce que dans l'église, on avait soin les uns des autres. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il y a quelque chose qui me frappe quelquefois. Maintenant, chacun veut avoir sa bâtisse pour se réunir. Du temps du Seigneur, c'était toujours une salle empruntée. Et on n'avait pas besoin de parler toujours d'argent, d'avoir des soucis d'argent. Parce que chaque maison devenait vraiment un sanctuaire. Or, aujourd'hui, dans l'histoire de l'Église, on a fait des cathédrales, on a fait des grands bâtiments. Et vous savez ce qu'ils sont devenus, ces bâtiments ? Des musées. Il n'y a presque plus personne dedans. Puis voilà maintenant, dans les milieux évangéliques, c'est souvent, on veut tout de suite avoir sa bâtisse. J'ai rien contre un lieu de culte, bien au contraire, j'en bénis le Seigneur. Mais il y a une tendance qui me paraît être fausse. Attendons-nous au Seigneur, qui, lui, n'avait que des chambres empruntées, mais qui étaient données par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait là? Eh bien, il louait Dieu, et il y a si peu de louanges dans nos milieux, trouvant grâce auprès du peuple, et le Seigneur, qu'est-ce qui sauvait les gens? C'était le Seigneur, et non pas des évangélistes seulement. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés. Voilà. Je ne veux pas m'excuser, parce que le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je fasse comme ça, pour que vous ayez eu la parole, et puis maintenant, on a le culte. C'est une bonne préparation. Il n'y a pas besoin d'ajouter beaucoup de choses. Nous avons comme ça nos 2 premiers chapitres qui ont été lus, et ce soir, nous pourrons continuer avec quel chapitre ? Le 3e. Hein? Mais vous avez la base. Et ce que je crois justement, c'est que c'est cela qui nous est nécessaire. Et bien maintenant, que vous vous sentiez tous libres de bénir et de louer le Seigneur, et que tout aboutisse à ce moment de communion.